Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un article du média Far West qui s'interroge à qui appartient la forêt, ou plutôt, à qui devrait-elle appartenir? Et si la forêt devenait un bien public, c'est le titre de votre article, Sévan Ozébian-Vartagnan, bonjour.
Bonjour.
Vous étudiez à l'école de journalisme de Bordeaux, l'IJBA, et vous êtes en contrat de professionnalisation avec la revue Far West. Vous êtes revenu donc sur les polémiques autour de la forêt de Rochechouart, une forêt du parc du Périgord-Limousin, en Haute-Vienne. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous décrire cette forêt?
Donc la forêt de Rochechouart, c'est une forêt ancienne, avec beaucoup d'arbres qui ont beaucoup vécu. Et au niveau de sa composition, il y a 2/3 de feuillus, donc notamment des chênes, et 1/3 de résineux.
Pour bien comprendre le sujet, il faut revenir en 2018. À l'époque, Hervé Gerbrandt, déjà propriétaire de plusieurs hectares de forêt en Nouvelle-Aquitaine, souhaite racheter 40 hectares de la forêt de Rochechouart. À ce moment-là, plusieurs élus locaux affirment que la forêt est en danger.
C'est ça. En fait, c'est principalement Nicolas Thierry, donc le vice-président de la région, qui a lancé un appel sur Facebook, qui expliquait que les 40 hectares de cette forêt allaient être achetés donc, par un groupement forestier dont le propriétaire est Hervé Gerbrandt, et qu'en gros ce propriétaire allait tout raser, notamment pour faire du bois pour des meubles, etc. Donc ça c'était en tout cas la crainte de Nicolas Thierry, la première crainte on va dire.
Et Nicolas Thierry, le vice-président de la région, avait publié un post Facebook au ton vraiment alarmant.
C'est ça, en fait, il appelait justement à préserver cette forêt, parce que c'est quand même une forêt ancienne, donc avec beaucoup de biodiversité très importante, etc. Et c'est vrai que Nicolas Thierry avait dit que la forêt était en danger. Selon lui, il manquait certains garde-fous pour la protéger.
Oui, et une cagnotte pour sauver la forêt avait d'ailleurs été lancée. De son côté, Hervé Gerbrandt affirmait que les arbres ne seraient pas coupés. 3 ans après, à quoi ressemblent ces 40 hectares de forêt?
Alors 3 ans après, la forêt n'a pas beaucoup bougé, parce que ce qui a été fait, c'est surtout le côté administratif en fait. Ce qu'on appelle le document de gestion n'a pas été rédigé encore. Donc le document de gestion, c'est un document qui reprend toutes les coupes, etc., les travaux qui vont être entrepris sur la forêt. J'avais parlé également à Laure Dangla, donc, qui est chargée de mission forêt au parc naturel régional, et elle m'expliquait qu'effectivement la forêt était dans le même état et qu'en fait le nouveau propriétaire avait communiqué fréquemment sur sa volonté de maintenir l'état feuillu. Je rappelle, il y a 2/3 de feuillus et 1/3 de résineux. En fait, c'était une crainte, notamment de la part des élus locaux, que les feuillus disparaissent, enfin soient coupés, pour qu'on plante des résineux à la place qui sont beaucoup plus rentables, qui poussent beaucoup plus vite, qu'on peut couper beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le cas. La forêt est toujours dans le même état, il n'y a pas de crainte à avoir. Les mobilisations autour de Rochechouart ont au moins permis d'interroger le mode de gestion des forêts. C'est le thème de votre article. Dans le cas de la forêt de Rochechouart, les parcelles sont-elles privées ou publiques? Alors dans les 40 hectares de la forêt de Rochechouart qu'Hervé Gerbrandt a racheté, effectivement, donc c'est maintenant sa propriété privée. Donc il y a notamment des panneaux propriété privée, ne pas rentrer, etc. Après, majoritairement, la forêt de Rochechouart est quand même privée, mais Il existe certaines parcelles qui appartiennent à des collectivités territoriales, notamment à la mairie de Rochechouart.
Vous avez interrogé plusieurs spécialistes de la forêt et de sa gestion. Quels sont les inconvénients d'une gestion privée de la forêt ?
Ce que me disait l'écologue donc Sonia Saïd, les collectivités territoriales, donc les acteurs publics, prennent plus facilement le pli, on va dire, elles font plus attention. C'est des choses qui sont plus contrôlées, enfin surtout elles ne sont pas toutes seules en fait, alors que les propriétaires privés, parfois, ils s'y connaissent pas forcément. Du coup, ils ne savent pas toutes les règles en fait qui existent. Après, il y a quand même beaucoup de garde-fous à l'échelle nationale, à l'échelle régionale aussi, et à l'échelle locale, du coup, avec les documents de gestion qui quand même cadrent en fait tout ce qui va être fait sur le terrain. Et qui sont bien sûr vérifiés par un organisme qui s'appelle le CRPF.
Dans le cas de Rochechouart, il n'y a pas de réglementation particulière pour préserver la biodiversité. Plus généralement, quelles sont les réglementations qui concernent les forêts ?
Alors en fait, il y a plusieurs cadres. Donc il y a le code forestier déjà, donc qui donne lui un cadre national. Donc par exemple, en cas de coupe supérieure à une certaine surface, il faut une autorisation qui doit être demandée donc soit au préfet du département, soit au CRPF. Il y a également tout ce qui est reboisement, etc., qui est obligatoire à partir d'une certaine surface. Au niveau de la région, il faut que les propriétaires respectent le schéma régional de gestion sylvicole, qui fixe des règles supplémentaires. Donc en fait, ça vient se superposer, s'ajouter au code forestier, qui lui est un cadre national. Et ensuite, il y a également des règles plutôt locales, donc au niveau des parcelles de forêt. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle donc, du coup, des documents de gestion. Et à partir de 25 hectares, donc ce document de gestion est obligatoire. En général, c'est un plan simple de gestion, on appelle ça un PSG. Ça fixe aussi du coup des règles. Par exemple, on ne peut pas faire n'importe quoi en fait dans notre forêt de plus de 25 hectares. Il y a des règles à respecter. Et en fait, ce plan de gestion doit être conforme à la fois aux règles régionales et aux règles nationales.
Quand je me promène au vent de la forêt, je ne vais pas très très loin. Et si je t'emmène au vent de la forêt, tu verras mes jolis coins. Il y a des oiseaux, des petits, des gros, mais y a pas de perroquets. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui se parlent sans arrêt. Il y a des oiseaux, des petits, des gros, mais y a pas de perroquets. Dans d'autres pays, y en a des jolis qui se parlent sans arrêt.
Après tous ces débats en 2018, quelques actions ont été engagées. Par exemple, un recensement des zones forestières sera finalisé pour la mi-2021.
C'est ça, donc en fait, il m'expliquait que la région allait vérifier forêt ancienne par forêt ancienne leur niveau de protection. Et si jamais le niveau de protection était jugé insuffisant, là, la région mobilisera donc le Conservatoire d'espaces naturels, le CEN, pour que cet organisme contacte les propriétaires et pour qu'à terme, du coup, les collectivités fassent l'acquisition de ces forêts. En tout cas, c'est ce que Nicolas Thierry espère. Il me disait aussi que la région pouvait aussi déclencher une procédure de classement d'une zone en réserve naturelle, en fait.
Et une association, Vivre le Parc, a racheté 4 hectares de la forêt de Rochechouart. Quel est son objectif ?
C'est ça. Donc, en fait, l'association, elle a acheté donc, ces 4,6 hectares avec, en fait, la mairie. Donc, c'est par la mairie que cet achat a eu lieu. L'objectif, c'est un objectif totalement patrimonial, c'est-à-dire que c'est garder la forêt, préserver en fait presque 5 hectares de la forêt à l'état naturel, sans intervention humaine et notamment sans coupe rase, etc.
Dans le titre, vous vous demandez si la forêt devrait être un bien public. Tous les spécialistes et les élus que vous avez interrogés n'ont pas le même avis. Quels seraient, selon eux, les avantages ou les inconvénients d'une forêt qui serait entièrement publique ?
Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une forêt est publique, on peut du coup la mettre sous cloche. Donc la mettre sous cloche, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intervention humaine. Donc il y a certains avantages. Par exemple, on n'a pas besoin de sécuriser les lieux pour accueillir du public. Donc on peut garder la biodiversité. Je pense notamment à par exemple des vieux bouts de bois qui peuvent être au sol, qui sont des vrais îlots de biodiversité, mais qu'on, si on veut accueillir du public, etc., on doit forcément enlever. Il y a quand même des inconvénients au fait de mettre les forêts sous cloche, c'est que si on produit pas de bois, en fait, on va être obligé d'importer, donc importer, ça pollue, et en général, on importe surtout de l'Amérique du Nord, et donc c'est du bois qui n'est pas contrôlé de la même façon qu'en France. Et il y a également le fait que si on met sous cloche, ça veut dire aucun humain doit y aller, donc on peut pas faire de promenade, on peut pas en profiter de la forêt, des lieux, etc.
La gestion de la forêt dépend aussi de ses propriétaires. Vous avez choisi de terminer votre article en donnant la parole à Laure Dangla. Elle est chargée de mission forêt au parc naturel régional. Elle décide de rester optimiste pour l'avenir de la forêt. Pourquoi ?
Alors, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait l'impression qu'avec les nouveaux propriétaires, notamment les jeunes propriétaires, c'est parce que d'après elle, les futures générations étaient vraiment beaucoup plus consciente en fait des risques et des enjeux climatiques. Moi, en tant que personne plutôt jeune, quand je compare avec mes parents, mes grands-parents, etc., l'enjeu climatique est vraiment beaucoup plus présent et important pour nous, la jeunesse, plutôt que pour les générations de les anciennes générations, si je puis dire. Et donc, je pense que c'est pour ça, en fait, c'est ça la clé, c'est que en fait, les nouveaux propriétaires ont de plus en plus conscience de ces enjeux-là, ouais.
Nous l'avons dit, cette forêt de Rochechouart, c'est aussi une affaire de médiatisation. En février 2018, de nombreux médias, dont Far West, de son propre aveu, ont découvert cette forêt. Le sujet a été largement traité. 3 ans plus tard, quel est le regard de vos interlocuteurs sur cette médiatisation ?
Alors moi, j'étais pas dans la région en 2018, donc j'ai pas suivi toute la polémique qu'il y a eu, parce qu'on veut quand même parler d'une certaine polémique. Dans les personnes que j'ai interrogées, on m'a vraiment dit que certains acteurs avaient un petit peu grossi certains traits, mais qu'au moins ça avait eu le mérite de sensibiliser notamment les collectivités territoriales. Et bien sûr, avec 3 ans de recul, on peut prendre le temps aussi de plus décortiquer, puis de voir au final ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Il y a ce recul que sur le moment, on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas savoir exactement ce que le propriétaire allait faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on avait donné la parole au gestionnaire de la forêt, qui avait notamment démenti la plupart des accusations qui étaient faites à l'encontre du propriétaire.
Et c'est d'ailleurs l'objectif de la revue Far West de suivre les sujets sur le long cours. Merci, Sevan Osebian-Vartagnan. Votre article « Et si la forêt devenait un bien public ?» est à retrouver sur le site internet de Far West.
Merci, Juliette Chénion. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feignet, Mathilde Leuil et Marion Ruot. Iconographie Magali Marico. Programmation musicale Gabriel Taïeb. Réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.